Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours du module sonore. Alors dans un premier cours, on a vu un peu tout l'aspect théorique qui est quand même important à comprendre pour savoir comment on travaille avec le son et pourquoi on travaille avec le son aussi. Dans ce cours-ci, on va beaucoup plus aller dans des aspects pratiques. Donc on va explorer ensemble le symbolisme des éléments. Le pouvoir de la voix, notamment avec les mots, les mantras, les voyelles. Et ensuite, je vous ai fait une annexe de pratiques sonores, non exhaustive, mais pour vous donner déjà une bonne base d'exploration. Alors, on a vu ensemble en quoi le son nous impacte énergétiquement et quels en sont les bénéfices sur les différents corps qui nous composent, corps physique, corps subtil. À présent, on va voir comment concrètement on utilise le son dans les soins ou en conseil après soins aussi. On va particulièrement ici parler des pratiques sonores en tant que telles. Tout ce qui concerne les instruments, ce sera abordé dans une prochaine leçon. Et comme d'habitude, je fais le petit disclaimer important. Je vais sûrement rajouter des choses en audio qu'il n'y a pas dans le document écrit. Donc je vous invite toujours à vous servir des deux parce que c'est toujours intéressant d'avoir plus d'infos peut-être. Alors c'était important aussi pour moi de vous montrer tout ce qui était possible déjà de faire sans instruments. C'est pour ça que ce cours on ne parlera pas des instruments. Parce que pour vous lancer dans la pratique du soin par le son, vous n'avez pas besoin de vous équiper en instrument directement, surtout que ça coûte cher. Ça coûte assez cher quand on commence à vouloir bien s'équiper. Donc tout ce que vous avez sous la main, y compris votre voix, et du coup la voix de la personne, ça suffit déjà en fait. Et puis on peut avec beaucoup d'imagination reproduire des sons et voilà, donc il ne faut pas trop vous prendre la tête au début. Ne vous pressez pas dans l'acquisition des instruments, vous avez le temps et vous avez aussi la possibilité de faire sans. Donc voilà, votre imagination est la seule limite et vous pouvez tout à fait commencer vos explorations sonores avec ce que vous avez sous la main. Ok, ça je vous l'ai dit. Tous les sons environnants sont des portes d'exploration. Certes, il va y avoir des sonorités qu'on va considérer comme sacrées et dont la portée énergétique est puissante et transcendantale, mais il y a d'autres sonorités qui sont peut-être moins nobles, mais qui pourtant apportent aussi de belles expérimentations. Prenez vraiment le temps d'écouter les sons qui vous entourent, que ce soit la débroussailleuse du voisin ou je sais pas, votre chat qui miaule, enfin bref. Et en fait, sans chercher à retracer forcément leur origine en fait, juste écoutez ce qu'il y a autour de vous, sans aller chercher, tiens mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Soyez juste ouvert aux sonorités qui gravitent dans votre quotidien. Et c'est comme ça que vous allez aussi développer votre clairaudience, c'est comme ça que j'ai développé la mienne déjà. Après, encore une fois, ne vous formalisez pas, vous pouvez avoir aussi des petites... plus de facilité avec clairvoyance, etc. Bon, on a vu tout ça. Mais pour développer votre sens subtil de l'ouïe, être dans l'attention des sons environnants, évidemment, c'est une très bonne chose. Et donc voilà, vous pouvez vraiment observer à l'écoute vos sons, les sons qui gravitent dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça dit sur le lieu où vous êtes? Qu'est-ce que ça dit des personnes qui y résident? Qu'est-ce que ça dit de votre propre perception? Vous voyez, faites des liens en fait, mais sans aller chercher l'origine des sons, juste prenez ce qui vient de manière la plus brute possible. Bon, je m'éloigne pas trop parce qu'on est que dans l'introduction. On commence directement avec le symbolisme des sons élémentaires. Dans le cours précédent, on a pu expérimenter les différents sons élémentaires, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Si vous avez bien fait les expérimentations du dernier cours, c'est ce dont il était question. Les sonorités de ces éléments peuvent tout à fait constituer un outil d'harmonisation énergétique. Le macrocosme, les éléments de l'univers, agit sur le microcosme, le microcosme c'est nous, c'est notre système biologique, notre système énergétique, etc. Alors, je vois des fautes en même temps, donc je les corrige. Si on prend par exemple l'élémentaire, il va résonner peut-être un peu plus avec notre chair, nos os, notre corps physique, notre assise, notre structure. L'eau, ça va plus être l'élément eau, les liquides dans le corps, et aussi tout ce qui va être gestion des émotions. Le feu, ça va être le métabolisme, sa manière d'être géré, la digestion énergétique. L'air, ça va être les gaz du corps, mais ça va être aussi les pensées, le mental. L'éther, c'est l'espace, c'est tout ce qu'il y a dans et autour du corps. C'est la conscience, etc., etc. Déjà, on a un petit aperçu. Bon, voilà, vous avez vu dans la formation aussi énergétique, vous avez une petite connaissance quand même de qu'est-ce qu'on relie à un élément. Mais bon, on va voir ça un peu plus en détail ici. Sachant que toutefois, ce que je m'apprête à vous énoncer, c'est pas une vérité absolue. Comme on a pu le voir, c'est la manière dont est perçu le son, ou du coup une énergie, qui renseigne en fait sur son impact. C'est très important que vous gardez ça en tête. Si vous comparez entre les élèves du module, les ressentis que vous avez pu écrire à la suite des écoutes de la dernière expérimentation, je suis sûre et certaine que vos mots et vos perceptions sont différentes. Même s'il y aurait peut-être, voilà, il y aurait peut-être des similitudes, des choses qui reviendraient un petit peu, mais quand même, il doit y avoir pas mal de différences. Parce que forcément, votre perception est différente. Comme on a pu le voir dans les soins énergétiques, il convient d'être à l'écoute du corps de la personne et de sa perception des process énergétiques que vous lui proposez, parce que c'est en fait sa réaction qui va faire que vous allez adapter ce que vous lui proposez justement. Comme je vous l'ai dit, dans un prochain cours, on verra les instruments, quel instrument à privilégier pour activer tel ou tel élément, ça on va le voir, mais il y a bien d'autres façons de travailler avec les sonorités élémentaires. On peut notamment, petit 1, entrer en contact avec les sonorités de l'élément tel qu'il est dans la nature, la rivière, le crépitement d'un feu de bois, écouter le son de ses pas sur la terre, etc., etc. Alors, vous pouvez le conseiller aux gens, si vous voyez que c'est un besoin, mais vous pouvez aussi ramener ces éléments, alors certes avec des instruments, comme on va le voir, mais aussi naturellement, c'est-à-dire que vous avez une petite fontaine d'eau, vous avez un bol d'eau tout simplement, et vous venez mettre vos mains dans l'eau à côté des oreilles, ça fait le taf, hein. Franchement, faut vraiment pas se prendre la tête. Le sable, pareil, un bol de sable, enfin pour le côté un peu terre, un peu on marche dans quelque chose, etc. Franchement, votre imagination est la seule limite. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est considérer l'élément dans sa symbolique et venir aborder sa fréquence vibratoire ici avec le son, par des syllabes ou des instruments, du coup. Par exemple, le tambour pour la terre, on va voir toutes ces choses-là. Mais aussi par les mots que vous allez utiliser, ça aussi on va le voir juste après. Voilà, vous allez transporter la personne dans des fréquences vibratoires par un outil sonore, les mots, les syllabes, les instruments, et ça va faire le taf aussi. Et enfin, troisième chose, s'y connecter comme une entité à part entière, un égrégore à laquelle on peut se connecter. Par exemple, une méditation guidée où on va chanter des mantras peut-être aussi qui appellent Gaïa pour ancrer les personnes qui sont présentes, pour appeler cette énergie terre. Voilà, je parle de la terre, mais voilà, tout dépend aussi de vos archétypes à vous. Peut-être que pour l'eau, on va appeler les énergies neptuniennes, parce que moi je travaille beaucoup avec les énergies des astres, mais c'est ma référence. Peut-être que vous avez d'autres références, d'autres dieux, d'autres archétypes, d'autres déités qui vous appellent pour tel ou tel travail. Et dans ce cas-là, on peut complètement se servir des archétypes dans les méditations sonores quand on installe l'intention de la pratique. Chaque élément a une propriété physique et vibratoire différente, du plus dense, la terre, au plus subtil, l'éther, même si au final l'éther, c'est une synthèse des quatre éléments qui le précèdent. Donc la fréquence n'est pas la même. Gardez cette logique en tête que pour la création de vos soins sonores, forcément, ça va être difficile d'activer le feu d'une personne si vous la gardez complètement statique. C'est du bon sens en fait. On peut plutôt lui conseiller des propositions sonores en mouvement, comme les mouvements intuitifs dont je vais vous parler en fin de ce cours. Mais voilà, c'est garder en tête que selon ce que vous allez travailler, pardon, on va pas forcément aborder le soin sonore de la même manière. Voilà un petit résumé des caractéristiques des éléments pour vous aider à construire vos méditations ou vos soins sonores. Ça reste non exhaustif comme tout ce que je vous propose, mais ça donne déjà une petite base sympathique. Pour la terre, et ça fait un bon rappel aussi, parce que je pense que vous savez un peu toutes ces choses-là, mais c'est bien de les rappeler. Pour la terre, l'ancrage, la sécurité, quand il faut travailler peut-être la densité, des gens qui ont du mal à s'habiter, ben ça c'est la terre, c'est aussi des énergies de solidité, de stabilité pour les gens qui peut-être vacillent facilement, des énergies de force nutritive pour les personnes qui ont du mal peut-être à s'alimenter énergétiquement. Les gens qui ont besoin de fondations, de sécurité, de bases solides sur lesquelles elles peuvent construire quelque chose. La notion de rechargement, ben encore une fois, le côté nutritif à la terre. La fertilité, parce que ça fait aussi partie de la terre que de créer quelque chose, de créer des acquis. C'est la structure, c'est le lien à Pachamama. Ben, Pachamama, c'est une déité aussi, hein, de Pachamama, c'est la terre-mère, tout simplement. Pour l'eau, ça va être la fluidité, le lâcher-prise, l'adaptation, l'ouverture au changement, le mouvement, la souplesse, le nettoyage, la réceptivité, l'intuition, l'inconscient, le monde onirique, le monde de l'inconscient. Donc vous voyez déjà, si vous avez, une personne qui est un peu rigide dans son quotidien, a du mal à s'adapter ou à accepter des situations, mais travailler cette fluidité de l'eau, ce lâcher prise de l'eau, ça peut aider. Pour le feu, c'est la digestion, la transformation, le fait d'intégrer les choses. Pensez au métabolisme. Hein. Le métabolisme, c'est... je ne suis pas biologiste, mais en clair, voilà, c'est aussi à quelle vitesse on intègre en fait, les aliments et comment on les gère. En fait. C'est ça aussi. C'est le fait de transcender le feu. C'est la créativité aussi, le feu créateur. C'est la passion, la sexualité, le désir, la détermination, la volonté, le changement, l'action, l'énergie, la motivation et l'impulsion. Donc une personne qui a du mal à être motivée, qui a du mal à être un peu cette passion, qui ne trouve pas vraiment ce qui la fait vibrer, ça peut être utile de travailler le feu. Pour l'air, c'est tout ce qui est allègement, imagination, échange, communication, intellect, mental, entraînement dans le sens d'un mouvement qui entraîne, rapidité, contact, liberté, inspiration. Une personne qui a besoin de plus de légèreté dans sa pensée ou une personne qui est peut-être un peu trop ancrée et qui aurait besoin d'être dans cet échange, dans quelque chose d'un peu moins concret. Une personne aussi qui a besoin d'être dans l'expression, dans la communication, on peut travailler les énergies R, enfin l'élément R. Et enfin, pour l'éther, c'est tout ce qui dit espace, unité, vacuité, expansion, cosmos, absolu, remplissement, dimension, infinité, immensité, essence. Une personne qui a du mal à être dans son cheminement spirituel ou à peut-être entrer en contact avec les aspirations de son âme, qui a du mal à appréhender les énergies de l'univers ou qui se sent coupé des autres, qui se sent qui a du mal à faire de l'espace dans son quotidien, on peut travailler les énergies de l'éther. Cependant, on peut aussi aller un peu plus loin dans l'exploration des éléments parce que chaque élément possède des subtilités énergétiques qui changent complètement l'intention de votre méditation en fonction de votre parti pris. Je vous ai mis quelques exemples non exhaustifs. Alors moi, très clairement, ça, pour ceux qui suivent Manipura, le programme Méditation Astrale, qui est un programme de méditation, c'est genre des choses basiques sur lesquelles je vais me référer pour amener ma personne du point A, début de méditation, au point B, c'est-à-dire le résultat escompté grâce à la méditation. Et ça va être hyper important. On va le voir, le choix des mots. Enfin, oui, on va en parler du choix des mots, mais... Le choix des mots, aucun mot n'est laissé au hasard. Alors quand vous faites vos méditations sur le vif, vous les avez peut-être un peu préparées, mais vous laissez place à l'intuition, etc. Il n'y a pas de souci. Mais si vous faites des méditations qui sont préparées, que vous enregistrez à l'avance, des choses qui sont travaillées, ce serait bête, enfin ce serait bête, non, ça c'est un jugement de ma part, mais ce serait dommage, voilà, ce serait dommage de pas être précautionneux sur le choix des mots, parce que, alors certes, vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne va percevoir le mot, mais au moins vous avez fait peut-être l'effort de recherche d'utiliser le bon mot pour amener la personne à ce que vous vouliez, ce que vous voulez comme chemin. C'était pas très français, mais vous m'avez compris. Pour la terre, par exemple, encore une fois, il y aurait plein d'autres exemples, mais je vous en ai mis quelques-uns. Une terre qui est stable, qui est meuble, prenez tous les adjectifs que vous voulez, c'est la terre qu'on peut y construire, où on peut y semer des graines. Donc il y a cette notion de fertilité, mais aussi de fondation. Une terre qui est aride, là ça va plus être une terre qui est, on pense à une épreuve, parce que si c'est aride, ça veut dire qu'il n'y a rien pour se substanter, donc ça va être difficile. C'est la traversée du désert, c'est l'idée qu'on va se remettre uniquement à soi et à ses capacités de résistance. Une terre inondée, là c'est une terre qui est dans un trop-plein, qui a une difficulté à évacuer, qui est, c'est une terre où on ne peut pas planter quoi que ce soit, vu que voilà, avec trop d'eau c'est juste pas possible. Je ne l'ai pas rajouté, mais une terre gelée, par exemple. Une terre gelée, c'est une terre sur laquelle on ne peut rien construire aussi, enfin, où on ne peut rien planter, où les choses se meurent. Donc voilà, bref, je vous donne des exemples. Une terre en mouvement. Après, une terre gelée, c'est aussi l'idée d'hibernation et le fait qu'on garde les nutriments dans la terre pour plus tard. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Une terre en mouvement, comme un séisme. C'est l'idée d'un changement soudain, de l'instabilité, de faire face à ce qu'on ne peut pas contrôler, etc., etc. Une terre de montagne, c'est une terre qui est dans l'ascension, c'est le développement, c'est le fait de gravir des étapes, le fait de s'élever. C'est aussi le choix du chemin. D'ailleurs, je vais le marquer, choix du chemin. Voilà, c'est pour vous donner quelques petites choses en plus. Au niveau de l'eau, on a l'eau d'un océan, qui est l'idée d'une eau immense, de grand tout. Peut-être pas conseillé pour les personnes qui se sentent perdues, parce que ça peut peut-être leur donner une certaine anxiété. L'eau d'une vague, c'est l'idée d'un brassage, d'une résilience, d'une acceptation en fait, du mouvement de l'eau. L'eau d'une rivière, c'est l'idée d'une circulation, de cycle perpétuel, parce que quand on regarde une rivière couler, on se dit qu'il n'y a pas de fin en fait, ça, elle n'arrête jamais de couler. Ou une eau de source par exemple. C'est l'idée d'une sérénité, d'un apaisement, c'est toujours hyper agréable le bruit de la rivière. L'eau d'une cascade, on va plus se référer à une puissance, une abondance, un nettoyage intense, genre on purifie vraiment toutes les cellules quoi. Pour l'eau d'un puits ou une eau peut-être qui est stagnante, c'est l'idée des profondeurs, des émotions cachées, des émotions non acceptées, des émotions qui stagnent en fait et qui pourrissent. Avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Ça vous donne déjà pas mal d'idées. Au niveau du feu, on peut penser à un foyer de braise, un doux foyer de braise, ou un feu de cheminée. Là, c'est l'idée que l'énergie est maturée, est efficace, est contrôlée. Elle est à notre service aussi, parce que les braises, elles sont utiles. Enfin, elles ne sont pas vraiment utiles quand c'est des grandes flammes. En général, pour se chauffer durablement ou pour faire cuire un repas, on préfère des braises, de bonnes braises, mais des braises, pas les trucs qui crament tout. Justement, en parlant de nos grandes flammes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est plutôt le côté impulsif, imprévisible. C'est la motivation, mais c'est aussi la colère, la difficulté à se contenir. C'est la fougue. Donc, ça peut être tout ça. La lave d'un volcan, ça va être le côté explosif, la force qui naît du plus profond de soi, qui jaillit du plus profond de soi, c'est la ressource en fait, la ressource qui est en nous, et c'est aussi le stress latent, le stress diffus. Vous savez, on dit souvent des faux calmes que c'est comme des volcans endormis, mais c'est exactement la même chose. C'est un stress qui est là, qui est diffus, qui est latent, et qui s'apprête à exploser en fait. L'air, pour l'élément air, vous avez par exemple la brise. Donc la brise, c'est quoi? C'est la douceur, c'est la caresse, c'est l'apaisement, c'est le soutien. C'est trop cool d'avoir une petite brise qui passe dans nos cheveux, etc., etc. Au niveau du... si c'est une rafale, là c'est le mouvement. C'est un éclaircissement soudain, c'est wow, ouf, ça m'a remis un petit peu les idées en place. C'est l'instabilité aussi, c'est peut-être la lutte parce qu'on avance à contre-courant presque, mais c'est l'idée qu'on fait peut-être face au vent. C'est le renouveau aussi, parce qu'une bonne rafale, c'est comme une petite claque bienveillante, mais ça peut ouais, c'est un peu le côté renouveau. Au niveau de l'orage, alors je vous ai mis ça dans l'air, parce que pour moi, ça rentre quand même dans l'air. C'est l'autorité, c'est la puissance, voilà. On a ce côté un peu de... On est à l'écoute de l'autorité quand il y a l'orage qui gronde. La tornade, c'est l'idée de tourner en rond, c'est le balayage, le tourbillon de pensée. C'était facile, ça. Et enfin, pour l'éther, si on le décrit comme un vide, ça peut donner cette impression de néant, de perte de repère, de non-existence et d'anxiété. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont vraiment du mal avec l'éther parce que, pour ces raisons-là, parce que pour eux, ça veut dire le néant. Et au contraire, si on le voit comme ce qu'il est, c'est-à-dire un élément qui relie toutes choses entre elles, ou entre eux plutôt, non, entre elles, c'est l'unité, c'est la vacuité, mais la vacuité qui fait du bien. Enfin, la vacuité, c'est ce silence, ce vide, mais en même temps qui est plein. C'est le lien cosmique, c'est la complétude. Vous savez, la vacuité, c'est comme quand vous avez fait une grande méditation ou vous avez fait un soin énergétique et vous sentez que le mental s'est complètement posé. Il n'y a plus rien, quoi. Les pensées ne sont pas là. Enfin, elles mettent un petit peu de temps à revenir. Et ce moment-là de vacuité où vous vous sentez juste complet, c'est ça en fait. Donc, c'est des exemples, mais vous comprenez que le choix des mots est extrêmement important pour diriger les méditations sonores, pour éviter que la personne aille trop vite aussi dans sa propre interprétation, dans sa propre perception de l'élément. Et du coup, cette personne passera peut-être à côté de l'intention que vous souhaitiez donner à votre méditation sonore. Donc, n'hésitez pas à rajouter des mots qui confirmeront quelle énergie vous voulez transmettre. Pour une personne qui a besoin de réguler un trop-plein de feu, on peut cultiver l'eau en privilégiant des mouvements continus, des mouvements doux au niveau des sonorités. Si une personne a des difficultés à se mettre en mouvement, alors par exemple des mouvements doux et continus dont je parle pour l'eau, ça va être vous allez jouer d'un instrument, mais avec des mouvements doux, des mouvements continus, pas des trucs saccadés. Ça, c'est pas vraiment l'eau, des trucs saccadés. Si une personne a des difficultés à se mettre en mouvement, on peut travailler avec le feu sur des mouvements ou des rythmes plus rapides, des rythmes soutenus rapides. Ça fait vraiment dynamique feu. Voilà, c'est pas des vérités absolues, mais allez-y au cas par cas, faites-vous confiance, et c'est pour vous dire que voilà, vous pouvez vraiment installer les éléments dans vos pratiques sonores. Par exemple, je pense à pour l'air, vous allez peut-être jouer des instruments avec un mouvement de va-et-vient ou un mouvement d'encerclement. Voyez. Pour l'éther, vous allez peut-être faire une pratique sonore qui remplit l'espace tout autour de la personne. Qu'elle se sente vraiment remplie de tous les côtés, si je peux dire. Ça, c'était pour le symbolisme des éléments. Vous faites une petite pause et on est parti pour ce chapitre-là. Alors, le choix des mots est important, on l'a vu. Ils vont créer instinctivement l'imagerie et même dans certains cas, la sensation. Pourquoi je dis que le choix des mots est important et je le répète, je me souviens dans mes premières pratiques de thérapie, je disais aux personnes, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné cet exemple, mais c'est comme ça qu'on apprend. Je disais aux personnes, alors ça va être un peu difficile, on va aller dans des sphères qui ne sont pas évidentes, et bon, ça risque d'être un peu difficile, mais ça va bien se passer, etc., etc. Et quand je disais à mon guide, je comprends pas les gens qui, après les séances, ils font souvent des crises de guérison. Pourtant, j'installe comment dire ça, le process dans la douceur. Je demande à l'énergie de la source de faire les choses en douceur, etc., etc. Et je disais ce que je disais en fait aux gens. J'ai dit ça à mon guide. Et elle m'a dit, c'est normal, si tu leur dis que ça va être difficile et que ça va être un peu compliqué d'aller dans ces sphères-là. Ils vont l'interpréter comme ça. Bon, bref, c'est juste un exemple de mon expérimentation personnelle dans mon cheminement de thérapeute, mais c'est pour vous dire que forcément, les gens vont s'attacher à ces choses-là. J'ai un autre exemple d'une autre de mes professeurs qui pendant une pratique sonore d'ailleurs, faisait passer un petit papier dans un carton, enfin dans une boîte, et elle faisait passer un petit papier, et chacun devait piocher un papier au hasard, parce que ça faisait partie de la pratique, et il y avait des gens qui on plongeait la main dans la boîte, mais on voyait pas où on allait mettre la main. Et elle avait dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'araignée dedans, pour un peu détendre l'atmosphère. Mais le fait est que pour certaines personnes qui avaient peut-être peur des araignées, alors évidemment tout le monde a pris ça sur le coup de la blague, mais pour des personnes qui ont vraiment peur des araignées, ça va mettre une imagerie, enfin même quelque chose d'hyper inconscient, et ils vont se dire, ils vont relier un petit peu le côté, ça va raviver une petite peur, même infime, qui peut peut-être les suivre après, dans le bain sonore. Donc ça, il faut faire attention. Donc comme je disais, les mots créent instinctivement l'imagerie et même, dans certains cas, la sensation. Le mot citron. 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 Il y a fort à parier que vous avez imaginé un citron. L'image est venue à vous. Vous allez prendre ce citron, vous allez l'avoir entre vos mains, sur sa surface, et vous allez en couper une tranche, vous sentez déjà le jus qui sort du fruit, et vous allez prendre cette tranche et vous allez la passer sur la langue. Et vous allez sentir l'acidité qui prend toute la bouche, toute la cavité buccale. Vous allez sentir cette acidité du jus de citron qui vous prend, qui vous fait un petit peu grimacer. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont salivé, mais bon, c'est juste une petite expérience pour montrer que rien que par le mot ou par les... Et d'ailleurs, c'est ce que font les auteurs aussi, hein, dans tous les livres, les bons romans, ils vont vous transporter dans un univers parce qu'il y a cette maîtrise du mot et parce qu'on sait que tel mot ou que telle situation va amener la personne qui reçoit, que ce soit dans des pratiques sonores ou là, dans ce cas, par exemple, dans un lecteur, va recevoir la sensation par les mots qui ont été choisis. Et bien, pareil pour vous dans vos pratiques sonores, les mots ont le pouvoir de faire ressentir des choses et il ne faut pas hésiter à les utiliser. On a cette richesse de langage qui est là et c'est très cool. Certains mots ont le pouvoir de nous faire ressentir une béatitude profonde quand d'autres peuvent nous laisser des marques traumatiques à vie. Donc c'est un grand spectre. Comme les mots, ce sont des sons, ils sont vecteurs d'une énergie et ils permettent au subtil de se manifester dans la matière. Chaque mot a une égrégore particulière, particulier. Son utilisation par des millions de personnes alimente sa portée énergétique et peut même la moduler. C'est-à-dire que on est immédiatement connecté à la vibration du mot, même sans en avoir conscience. On a accès à son histoire, de manière très inconsciente, hein, son histoire, son sens, les contextes dans lesquels il a été entendu, le regard que porte la société sur ce mot ou que a la société dans laquelle on a grandi. Par exemple, le mot, j'avais vu ça récemment, le mot midinette, qui désigne en fait une femme un petit peu... Voilà, une médinette, quoi, qui fait un peu... Je sais pas si c'est vraiment quelque chose de charmeur, mais c'est un peu cette idée-là, la petite femme un peu sotte, vous voyez. Alors qu'en fait, les médinettes, c'était, je crois, des couturières à l'époque qui avaient fait une grève. Et je crois que d'ailleurs, c'est grâce à elles qu'on commençait un peu ce côté, le droit de faire la grève, hein, tout simplement, le droit de manifester. Et en fait, ça partait de là et ça a été déformé au fil du temps, au fil des utilisations, pour devenir quelque chose d'un peu sot, c'est la midinette du quartier, quoi. Vous voyez, donc c'est assez intéressant de voir que par l'utilisation, et on peut vraiment changer la portée énergétique d'un mot, en fait, qui n'avait rien à voir au début. Donc ça, c'était pour l'exemple. La parole est donc une forme de manifestation puissante, bien que souvent limitée, et elle participe à la matérialisation de la vibration, de la vibration des mots en nous. Pourquoi je dis bien souvent limitée ? Parce que vous l'avez vu dans vos retours après soins, vous voyez bien que c'est difficile de mettre des mots sur l'énergie que vous avez ressentie, que vous avez travaillée chez la personne. C'est hyper dur parce que les mots restent des choses concrètes, matérialisées et forcément limitées par le mental. Il y a des choses énergétiquement parlant qu'on ne peut pas ou très difficilement, quasi impossible, impossiblement, décrire avec des mots. Alors, pour vous faire comprendre comment la parole peut être une manifestation puissante, il y avait une expérience qui a été faite. C'était c'était vraiment un accident de voiture, fictif, je crois. Et on avait posé ces questions à trois personnes différentes. Donc, à la première personne qui avait vu, du coup, qui avait été témoin de la vidéo de l'accident, on lui disait « À combien de kilomètres heure les voitures se sont heurtées ?» À la deuxième personne, on a dit « À combien de kilomètres heure les voitures se sont choquées ?» Et à la troisième personne, on a demandé « À combien de kilomètres heure les voitures se sont rencontrées ?» Et juste avec le changement du verbe « heurter, choquer ou rencontrer », la perception de la vitesse donnée a été totalement différente d'une personne à une autre. La personne à qui on a demandé à combien de kilomètres heure les voitures se sont rencontrées a donné une vitesse beaucoup plus, enfin vraiment moindre comparée à la personne qui a reçu la question « heurter » avec le verbe « heurter » et celle qui a eu la question avec le mot « choquer ». À combien de kilomètres heure les voitures se sont choquées, celle-là, elle a donné le plus élevé. Donc c'est juste pour vous dire que par le choix du verbe, on va influencer irrémédiablement la réponse de la personne. Et dans notre cas de sonorité, la réponse vibratoire de la personne au son qu'on lui propose, au mot qu'on lui propose. Pour résumer, chaque mot a une vibration qui lui est propre et qui se modifie au fil du temps. Le mot se rattache à une pensée qui façonnera une réalité. La vibration d'un mot dépend de 1, des lettres et des syllabes qui le composent, de 2, de l'énergie de celui qui porte ce mot. Par exemple, le mot pêche porte l'énergie que l'on donne à une pêche, la douceur, le côté sucré, le côté rosé, le côté fraîcheur, etc. Tout ce qui catégorise une pêche. Et la troisième chose dont un mot dépend, c'est aussi les circonstances dans lesquelles ce mot a été utilisé, par qui a-t-il été utilisé, combien de fois, avec quelle intention, comment a-t-il été prononcé, pour quelle occasion, voilà, tout ce qui va participer en fait à créer un égrégore autour de ce mot. Par exemple, on écoute plus attentivement un prêtre, un imam, un swami, qui parler en fait parce que les mots qu'ils transmettent le sont par leur taux vibratoire qu'ils travaillent au quotidien. Vous avez un côté, on va écouter ils vont prêcher la bonne parole, mais parce qu'ils ont aussi cette capacité vibratoire-là et d'attiser en fait notre attention. Autre exemple, on va s'installer dans un état de prière, on va d'abord se mettre dans une posture vibratoire qui est particulière. On va fermer les yeux, on va ouvrir son cœur, parce qu'on va augmenter comme ça la portée des paroles que l'on va prononcer. Il y a toujours, selon les traditions, il y a vraiment un sas entre la vie quotidienne et la prononciation de la prière. En général, il y a un peu un sas où peut-être on va se nettoyer, peut-être on va faire des mouvements, etc. Enfin, il y a vraiment des codes en fonction des religions, mais aussi des traditions. Voilà, on passe pas directement dans l'entrée d'un temple. Avant, il y a peut-être ce côté, on va se déchausser, etc., etc. Vous m'avez comprise. Mais tout ça, ça sert à augmenter la parole la portée de la parole que l'on va prononcer. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que pendant vos pratiques sonores, si vous faites des méditations sonores, par exemple, typiquement, moi, dans mon cabinet de yoga-thérapie, les gens se déchaussent avant d'entrer, parce que c'est un lieu de yoga, dans les lieux de yoga, on se déchausse dans tous les cas, mais c'est aussi l'idée qu'ils vont laisser leurs problèmes à l'extérieur, la vie à l'extérieur, leurs soucis tous les jours, et là, ils entrent dans un espace où ils peuvent pleinement être eux, pleinement se libérer, et ils vont chausser des chaussons. C'est symbolique, en fait. Mais toutes ces petites choses, ces petites attentions que vous allez mettre dans la préparation de vos méditations sonores, de vos soins sonores, c'est ça, en fait, qui va aussi installer la vibration que vous voulez transmettre. Ok, on a parlé du choix des mots. À présent, on va voir pour les mantras. C'est pareil pour les mantras. Chaque mantra convoque une énergie particulière. La bonne prononciation des syllabes est essentielle pour en manifester sa portée énergétique. Quand vous venez en ashram, je prends beaucoup des références yogi, vous m'excuserez, mais voilà, prenez, je ne sais pas, les ashrams, c'est les temples de yoga, si vous voulez, c'est les écoles de yoga. Le maître va vraiment prendre le temps que les prononciations soient bien comprises, bien articulées par l'élève, pour être sûr que la transmission orale du mantra soit bien intégrée. Ça, c'est vraiment le côté très traditionnel. Mais c'est comme ça qu'on fait. Les mantras nous invitent à prendre, à manifester leur vibration à voix haute ou mentalement. On peut faire les deux. L'un n'est pas mieux que l'autre. Le résultat est différent, mais les effets sont différents, mais ils se diffusent dans tous les cas. Et si vous voulez, lorsqu'on chante avec à voix haute, il y a l'idée de puissance, il y a l'idée de, on va vraiment ressortir notre essence, la porter au monde, la manifester, donc c'est très beau. Et quand on chante dans notre esprit, il y a plus cette idée qu'on va émettre une vibration qui traverse le corps, qui s'y propage comme un massage énergétique. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre sensibilité, de votre besoin du moment. Est-ce que vous avez besoin de manifester votre énergie, de la porter au monde, de travailler sa voix, ou est-ce que vous avez besoin de faire ce massage intérieur, ce côté intériorisé, etc. etc. Ça dépend vraiment de les faire chercher. Man, de mantra, man, c'est pensée, c'est l'esprit, et mani, en sanskrit, c'est aussi cette idée du mental, de l'ego. Tri, donc ça vient de tra, ça vient de la source tri, et c'est l'instrumentalité, l'idée de penser une nouvelle pensée, d'influencer le mental, de faire de la pensée un instrument. Donc on instrumentalise la pensée, on instrumentalise l'esprit, c'est ça le mantra. La définition des mantras varie en fonction des traditions. Alors ici j'appelle ça mantra, mais dans d'autres traditions ça s'appelle sûrement différemment. Mantra, c'est la source sanskrit. Mais c'est vrai que maintenant on l'utilise tellement dans le monde occidental que on s'y réfère quand on parle de chant sacré. Mais vous comprenez bien qu'en général, enfin normalement, c'est réservé aux cultures hindouisme, yogique, etc. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus dans un cours de yoga ici, donc on peut un petit peu dévier de la règle. Donc la définition des mantras varie des traditions dans lesquelles on les perçoit et on les reçoit. Ils sont utilisés comme des outils de purification du mental et d'élévation de conscience. Ils vont créer un espace en nous où le silence peut enfin s'exprimer. Après leur répétition, on peut observer une vacuité très agréable en nous. Et je vous ai donné quelques effets bénéfiques, mais vraiment non exhaustifs, il y en a beaucoup d'autres. Premier effet, le fait d'être dans la répétition, on appelle ça le japa. La répétition chasse les pensées intrusives. Elles engendrent un rythme qui crée une danse vibratoire à laquelle on se soumet avec le sentiment de vraiment s'harmoniser dans notre entièreté. Le deuxième effet bénéfique, c'est la respiration qui va se structurer et qui va devenir créatrice. Par le souffle, on va créer une onde sonore ou même créer une vibration intérieure, hein, qu'importe. Repenser au précédent cours où on a vu la descente et la remontée vibratoire, notre souffle devient créateur d'une nouvelle vibration et qui prend source depuis notre base. C'est vraiment la respiration, on l'utilise à des fins énergétiques. Enfin, déjà, par elle-même, on n'a pas besoin de l'utiliser pour que ce soit le cas, mais voilà, vous me comprenez, ça devient un souffle créateur. Le troisième bénéfice qu'on peut citer, c'est la prononciation qui est ressentie et qui résonne dans nos colonnes d'air, nos différentes colonnes d'air, on se souvient, colonne périnéale, etc., etc., colonne sonore. Et en fait, ça fait vibrer chaque étage de nos colonnes. Chaque étage va vibrer de l'énergie, de la prononciation, de la vibration ressentie. Le troisième bénéfice, c'est le fait de chanter à plusieurs. Ça, c'est génial. J'aimerais beaucoup vous faire... j'espère qu'on aura l'occasion de faire quelque chose en présentiel ensemble un jour, parce que ça apporte une dimension qui est vraiment différente. Donc chanter à plusieurs, ça crée une synergie qui est chaleureuse et qui est très puissante, qui est très très puissante. Le dernier bénéfice, que je vous ai mis, c'est qu'on va convoquer le symbolisme et les visualisations qui sont liées aux vibrations du mantra qui est proposé. Et on nourrit aussi, on se nourrit soi de cette vibration, mais on nourrit aussi l'égrégore. C'est-à-dire que, je vous prends au hasard, les Ave Maria, ben les Ave Maria, à chaque fois que quelqu'un va prier Ave Maria, il va nourrir l'égrégore qui est lié à ce mantra. Un mantra peut être une phrase, peut être un mot, peut être une syllabe, voire une lettre. On peut l'utiliser comme prière, comme invocation à une entité, etc. etc. Il y a beaucoup de... outils à la manifestation, bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On les utilise en chant ou en répétition, avec parfois un nombre précis. En général, c'est 108 fois, parce que ça correspond au nombre de perles que vous avez sur un mala. Mala, c'est comme un petit peu l'équivalent du chapelet chrétien, mais version religion hindouiste, mais aussi bouddhiste, tibétaine, etc. etc. Bon, tibétaine n'est pas une religion, mais vous m'avez compris. Du coup, voilà, on a souvent c'est souvent 108 perles et ça correspond. Alors, le 1, c'est l'unité, le 0, c'est le sentiment de vacuité et le 8, c'est l'infini. Donc, c'est à ça que se réfère ce nombre et c'est un très beau nombre, je trouve. En tout cas, les mantras, on les écoute et on les répète ou on ne récite que ceux qui nous ont été transmis pour respecter la puissance énergétique de leur prononciation parfaite. Là encore, c'est selon les traditions, il y a plusieurs écoles. Et dans cette formation, je vous partage essentiellement des mantras tirés des pratiques yogiques parce que c'est avec cette sensibilité-là que j'ai appris. Mais n'hésitez vraiment pas à vous diriger vers des chants et des traditions qui vous appellent. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, le mantra le plus répandu de la tradition tibétaine, c'est Om Mani Padme Hum, on l'a vu ensemble. Le joyau dans le lotus, qui autrement dit veut dire Dieu est dans mon cœur. Vous avez le Om, qui est le tout, l'absolu, qui est Brahman, la déité Brahman. Dans le christianisme, vous avez Amen, qui signifie ainsi soit-il. Vous avez aussi le Ave Maria, je vous salue Marie, la mère divine. Et Ave Maria, je trouve que c'est vraiment un super mantra, même si vous n'êtes pas de confession catholique ou autre, parce qu'en fait ça appelle la mère divine, tout simplement, la mère divine, la mère de tous les êtres. Donc il faut vraiment pas vous stopper au fait que ce soit utilisé dans une religion en particulier, même si c'est vrai que c'est forcément un peu teinté de l'égrégore de cette religion-là. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le tantrisme, on a Om Shanti Shanti, qui est le mantra d'invocation de la paix, que vous devez souvent entendre à la fin des cours de yoga par exemple. Dans l'islam ou le soufisme, vous avez Bismillah, que je dois très mal prononcer, j'en suis navrée, qui veut dire au nom de Dieu, et vous avez Allah, qui est le Dieu, l'énergie divine. Dans le judaïsme, vous avez Alléluia, qui vient de l'hébreu Allélu. Gia, qui veut dire louer le Seigneur. Dans les peuples et les peuples chamans amérindiens du Nord, vous avez le Vakan Tanka, qui signifie le grand esprit. Et dans les amérindiens du Sud, vous avez le fameux Pachamama, qui désigne la terre-mère. Voilà, c'est que des exemples. Il y en a sûrement plein d'autres. Je ne suis pas du tout même experte dans d'autres pratiques pour me permettre de vous les enseigner, mais je vous invite tout simplement à faire vos recherches selon votre sensibilité. Au niveau des mantras, les puristes vous diront qu'il est important de se référer aux mantras et chants sacrés qui ont été transmis, quand d'autres partisans plus modernes vous diront que c'est possible de créer son propre mantra tant qu'il résonne en vous. Voilà, il y a vraiment deux écoles, je vous laisse vraiment maître de décider. Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Je trouve ça dommage même peut-être de limiter les gens. Un mantra traditionnel, forcément, a une portée énergétique qui est très puissante parce que l'égrégore à laquelle est lié est travaillé depuis des millénaires parfois. Mais s'il y a des mots qui résonnent en vous, qui vous font vibrer, qui font vibrer votre cœur, qui sont en français, Qu'importe, je vois pas l'intérêt de vous les interdire. Voyez ce qui vous parle. On a vu les mantras, à présent on va voir les voyelles. Faites une petite pause avant de continuer si besoin et on est parti. Les voyelles. Chaque voyelle fait vibrer une partie différente du corps. Nous les appelons les cinq sons mères, les varas, qui sont présents dans toutes les civilisations. D'ailleurs, si vous prenez le temps de décortiquer le mot voyelle lentement, vous allez trouver toutes les voyelles. Donc voilà, pratiquez en conscience, ça vous connecte au hara qui est le centre de gravité, qui est en fait aussi là où vous pouvez puiser votre pouvoir créateur. De l'espace du A, la voyelle A, vous avez tous les autres sons qui proviennent de là. Le OM, quand il est bien chanté, il se décompose en A, U, M. Donc le son OM commence par cette sonorité du A. C'est le son premier de la manifestation et accessoirement le premier son que l'on émet. Un bébé, quand il naît, il ne va pas faire I, il ne va pas faire E, il ne va pas faire, je ne sais pas moi, O. La plupart du temps, c'est plus un A, gaga, mama, et toutes ces choses-là. Les voyelles, ce sont des noyaux vibratoires, les noyaux vibratoires des mots. Les consonnes vont plutôt être là pour donner un rythme. On les appelle les rythmes pairs. Voyelles, son air, rythme, rythme pair. Enfin, consonne, pardon, rythme pair. Dans le chant, c'est les voyelles qui résonnent en nous et qui nous touchent profondément. Elles sont la base de toute pratique vibratoire sonore par la voix. En général, quand vous êtes chamboulé par un chant, c'est vraiment les voyelles en fait qui résonnent en vous, beaucoup plus que les consonnes. On va les voir en détail. Alors, on a le A, O, U et I. Le A, c'est le rayonnement dans l'espace. C'est la zone de résonance privilégiée, c'est le cœur. Je vous aurais peut-être mis des images, il faut que j'y pense. Soit je vous fais une petite vidéo, soit je mettrai des images à côté pour que vous puissiez voir comment on le voit de manière visuelle, ce A. C'est la voyelle la plus ouverte. Ah, elle est donc reliée à l'ouverture, à l'espace. Elle est la base de toute création. Sans espace qui se crée, pas de création possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez vu peut-être passer une de mes stories où je parlais de pour laisser l'espace en fait, enfin l'univers prendre place en nous et moins se fatiguer, encore faut-il créer de l'espace. Et c'est vraiment, c'est la logique derrière ça. Le A ouvre des portes et nous rend disponibles à recevoir les enseignements divins. Observez sa présence dans de nombreuses formules sacrées. Alléluia, Ave Maria, Hala, Aum, Adonai. Adonai, c'est, je crois, hébreu. Enfin, c'est Seigneur en hébreu. Alpha Omega, qui désigne en fait le Dieu dans la religion chrétienne, etc. etc. Donc vous avez vraiment, le A est dans énormément d'appellations, de formules sacrées. Avec le A, on développe l'expansion, le rayonnement, la dilatation de l'être. Parfois, la gorge serrée ou la mâchoire qui peine à s'ouvrir pour manifester ce A, ça provoque des libérations émotionnelles intenses. Vous avez des gens, ils ont du mal à ouvrir pleinement. C'est vraiment compliqué pour eux de... Je vois ça souvent dans la posture du lion, qui est une posture du yoga où on doit rugir. Et vous avez des gens qui sont vachement restreints parce que pour eux, c'est émotionnellement parlant, c'est beaucoup de libération de faire ça. Et c'est pas évident. Donc ça peut... Vous pouvez voir des frustrations apparaître, des blocages qui se libèrent, le fait d'oser rayonner avec cette manifestation de la voyelle A. Le A est relié à la clarté. Ah ! Quand on comprend quelque chose, c'est lié au dégagement. Le fait que voilà, ce soit dégagé, au relâchement. Ah ! Voilà, toujours des soupirs. À l'exploration de l'inconnu. on le relie à l'image des rayons qui se dispersent. Il y a vraiment cette idée de dispersion, de rayonnement dans l'espace. Sa pratique est parfaite pour les personnes qui se sentent dans l'impasse, qui se sentent bloquées ou qui se sentent enfermées intérieurement. Le A aide à entrevoir des nouvelles perspectives, à s'ouvrir à d'autres choses, mais il peut aussi être un peu compliqué pour les personnes qui se dispersent facilement énergétiquement, pour les personnes très aériennes ou naturellement très expansées, parce que ça va venir renforcer cette tendance-là. On passe au O. Le O, alors je ne sais pas si je vous ai dit pour le A, c'est vraiment la zone de résonance privilégiée. Ah, c'est vraiment le cœur, vous allez sentir dans le cœur. Le O, c'est la plénitude de la matrice, la rondeur. La zone privilégiée, c'est le ventre de la mère, de la femme enceinte. La voyelle O amène une énergie de rondeur dans la globalité du corps. Elle appelle à l'intériorité. Le A nous aide à rayonner, le O nous enveloppe dans une douceur. On le relie à ce qui est rond, à ce qui est sphérique, à l'idée de cocon, d'union, de cohésion, de rassemblement. Elle nous connecte, cette voyelle, au féminin et à l'énergie maternelle, mais aussi à toutes nos cellules, au travail sur les mémoires, voilà, toutes ces choses-là. La voyelle O facilite l'accès à notre part émotionnelle et à notre imagination. On considère le O comme la voyelle la plus yin de toutes. Elle sera particulièrement conseillée pour les personnes en excès yang ou dont les énergies sont trop tranchées ou rigides. Elle permet d'arrondir les angles, forcément parce qu'il n'y en a plus, et d'être plus à l'écoute. Le O est conseillé aussi pour les personnes qui ont du mal à se connecter au sentiment d'unité, de cohésion et d'harmonie. Les personnes qui trouveront difficile l'appréhension du O sont souvent des personnes peu à l'aise avec leur monde intérieur ou leur part féminine. O. Vous pouvez vraiment faire des pauses et tester. Hein. Je vous invite vraiment à le faire. Au niveau du U à présent, le U ou le OU parfois, hein, on peut aussi avoir le OU là-dedans. Dans le U, on a le OU. C'est la concentration dans les profondeurs. La zone de résonance du U, c'est le bassin. Le U, donc aussi écrit OU, nous donne un indice de par sa forme en cuvette. C'est l'énergie qui se concentre dans un axe, dans une verticalité, et elle va se poser au fond d'un puits, donc au fond du bassin. C'est la voyelle la plus intérieure, la plus profonde. Elle entre en résonance avec l'espace profond du bassin et c'est un son qui est yin, qui est très doux et qui est pourtant très puissant. Parce qu'il faut aussi un peu de douceur parfois pour, mais aussi un peu de puissance pour accéder aux parts les plus profondes de notre être. Parce que ça demande une vulnérabilité, donc de la douceur. Mais en même temps, ça demande de se faire violence parce que c'est pas évident d'aller voir les choses profondes de son être. Donc ça, ce U mêle un peu ces deux énergies-là. Surtout le OU qui est beaucoup plus doux. On dit qu'il précède la manifestation du A dans le sens où il est le potentiel d'incarnation qui s'expanse ensuite par le A. Donc potentiel d'incarnation, le U, et expansion grâce au A. Du coup, vous l'avez compris, c'est yin en fait. Hein, le U est yin et on s'expanse avec le A qui est yang. Le U désigne l'enracinement, le recentrage, l'assise, la densité et la concentration énergétique, la sensation de plénitude et celle d'être incarné. Elle peut être utilisée, cette voyelle, pour toutes les personnes qui manqueraient de ce côté plénitude, de ce côté je suis incarnée, de ce côté assise, etc., tout ce qu'on a vu, ou aussi pour les personnes qui ont du mal à être présents à eux-mêmes. Le son OU est un intermédiaire intéressant parce qu'il possède les mêmes bénéfices, mais avec un peu plus de rondeur et moins d'intensité parce que dans le OU, il y a le O. Donc forcément, le O va ramener plus de douceur. Au niveau du E à présent, on va voir le E. C'est l'énergie dans sa connexion. La zone de résonance privilégiée, c'est la gorge. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des syllabes, A, O, U, E, I, le E et le I, déjà, ça commence à être moins intuitif. C'est normal parce que ça vient. C'est beaucoup moins à l'aise en fait. On est beaucoup plus dans la gorge et dans la tête pour le I. Après, c'est beaucoup la tête. Alors, le E, c'est une voyelle de transmission et de connexion. Bah, d'ailleurs, on ne dit pas en français, voilà, Coam et Léo, mes deux animaux, parce que voilà, et ça relie en fait. Le et aide l'énergie à circuler dans tout le corps et à communiquer avec l'extérieur. La voyelle et agit comme des canaux ou des ramifications énergétiques. Elle appelle l'expression et nous aide à créer des liens. On la relie à des énergies yang. Elle aide à s'affirmer dans son identité et aussi à stimuler l'expression de soi et de sa puissance. Elle est conseillée pour les personnes qui ont besoin de cette tonicité pour sortir d'un mouvement, d'un sentiment d'apathie ou de confusion. C'est vrai que quand on pense au « et », il y a « et ». Il y a quelque chose de très simultané, de très tonique « et ». Voilà, et c'est pas quelque chose de lancinant, de rond, de... C'est très... comme un petit pic, hein, un petit piquant, tic. Voilà. Vous avez aussi le son « et ». Qui est un intermédiaire intéressant parce qu'il possède les mêmes bénéfices mais avec un peu plus de douceur et d'ouverture. Il est un peu entre mi-chemin avec le A. Donc il permet cette ouverture là. Et enfin le I. I. Quand vous allez le faire, je vous invite à le faire de votre côté, à mettre pause et à le faire. Vous allez le ressentir dans la tête et au niveau du troisième œil aussi peut-être. C'est l'énergie dans sa verticalité. Donc c'est l'accès au I, il est un peu moins évident parce que essayez de le tenir chanté pendant un instant. I. C'est, je pense que c'est peut-être moins évident que pour les voyelles précédentes. Parce que... on peut facilement ressentir comme une crispation ou un tiraillement au niveau de la gorge. La voyelle I appelle à la verticalité, elle nous reconnecte à notre axe et donc à notre connexion tertielle. Elle manifeste l'énergie de ce qui est pur et de ce qui est essentiel. C'est la force de vie qui s'élève. C'est le côté, ouais, c'est le côté très... comment dire ça, un peu strident. Quelque chose de très aligné. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie pure et essentielle, parce qu'elle ne divague pas sur autre chose. C'est quelque chose de très concentré sur une ligne, presque. Son énergie est la plus cristalline. Elle nous parle de lumière et d'éclat. On l'associe aux énergies yang. Elle permet la montée de la kundalini dans notre colonne énergétique, qui, pour rappel, s'appelle, est-ce qu'on s'en souvient, la sushumna, jusqu'à la fontanelle. La sushumna qui est le... nadi principal du corps, la colonne énergétique. On dit que le point sur le I représente l'éclat du troisième œil ajna, traduisant une stimulation de la conscience. Le I est utile pour les personnes qui ont besoin de se reconnecter à cette verticalité, à cette connexion aussi avec le ciel, pour autant garder à l'esprit que son utilisation est plus difficile à appréhender. Ok, on a vu nos voyelles. A, O, U et I. Maintenant, on va voir comment on peut les utiliser. En fonction des besoins, vous pouvez simplement chanter une voyelle seule. C'est totalement possible et faisable et c'est déjà assez challengeant. Parce que vous allez le voir que le but en fait en travaillant avec les voyelles, c'est la répétition. Hein. Vous n'allez pas le faire une fois et puis basta. Et vous allez voir que vous allez très vite vous ennuyer. Mais c'est bien, c'est fait exprès, parce qu'on est en train de lâcher un peu, enfin le mental s'ennuie en fait. Et ça vous permet de rester focus sur les voyelles, c'est un vrai travail de concentration, et c'est pas plus mal, mais c'est difficile. Donc vous pouvez soit chanter une voyelle seule, soit vous pouvez les combiner, c'est tout à fait possible aussi. Mais gardez à l'esprit qu'une voyelle chantée sera forcément teintée des énergies de celle qui la précède. Par exemple, si vous faites un O après un A, et ben le O aura forcément peut-être, il aura ces énergies de rayonnement, d'ouverture du A dans le O. Voilà, ça va l'affecter. C'est un petit peu comme si vous mangiez du fromage avant de boire du vin. Votre vin aura aura sûrement, je sais pas, je bois pas de vin, mais aura sûrement le goût du fromage en fait, un petit peu. Alors, je vous donne quelques petites pistes d'exploration, mais elles sont infinies et elles vous invitent aussi, enfin je vous invite à explorer. On a vu pour chaque syllabe, enfin pour chaque voyelle, pardon, quelles étaient les propriétés énergétiques. Donc c'est aussi à vous de faire ce travail de recherche, mais de peut-être de combinaison en fonction de la personne que vous recevez ou en fonction de vous. Et comment vous pouvez faire? Vous pouvez dire à la personne de faire ces exercices, vous pouvez les faire avec elle, ou vous pouvez aussi le faire pour votre pratique personnelle, évidemment. Premier exemple que je vous ai mis, A, O, U, M. Donc c'est le A, O, M. Donc on va le faire ensemble. Prenez une inspiration. A, O, Donc ça, c'est un mantra d'incarnation et de réalisation. Il permet l'unification de notre être, l'accueil de l'énergie universelle en nous-mêmes, c'est le Aum, et le sentiment de protection et d'accompagnement, la sensation de plénitude et de complétude. Il n'est pas la même chose. Ensuite, deuxième proposition, M-O-A. Donc, vous voyez, on a rajouté des consonnes aussi. Hein. Donc, inspiration avec moi. C'est un mantra d'incarnation du soi, moi, tout simplement. Alors, vous voyez, quand on pose les mantras, parce que c'est des mantras en fait, hein, ce qu'on est en train de faire, ce qui est important, autant la voyelle est importante que toute la transition que l'on fait entre une voyelle à une autre. Et cette transition, elle est riche de plein de fréquences harmoniques. On a vu ce qu'étaient les fréquences harmoniques. Elle est riche de plein de fréquences harmoniques différentes qui vont venir teinter aussi la vibration que vous êtes en train de créer. Donc autant les voyelles sont importantes, mais tout le cheminement d'une voyelle à une autre, ce sont des portes d'exploration différentes. Troisième proposition, OU, U, I. Prochaine inspiration avec moi. Donc ça, c'est un mantra d'accueil, d'acceptation. Oui, tout simplement. Vous voyez, on n'est pas, faut vraiment pas vous formaliser, hein. Il permet de dire oui, littéralement, à ce que l'on est, à notre vibration, à nos potentiels, mais aussi à notre force vitale, à notre nature et à notre puissance. Ok. Quatrième proposition, O, U, I, E, A. Et c'est le mantra de l'arbre. Donc je vous invite à juste imaginer les racines et que vous allez jusqu'au feuillage. On va expliquer après. Prochaine inspiration avec moi. Ok. Donc le OU va représenter les racines. Le U, c'est la base du tronc. Référez-vous à ce qu'on a vu, hein, les caractéristiques des syllabes qu'on a juste vues avant. Donc c'est la concentration d'énergie, le U. Le I, c'est la verticalité du tronc. Le E, c'est les branchages, parce que le E permet la connexion, se disperse. Et le A, c'est le déploiement des feuillages, le rayonnement de l'arbre, qui capte les rayons du soleil, hein. Tout simplement. Ce mantra de l'arbre, il permet de travailler son ancrage tout en travaillant la confiance en soi, le dynamisme et la concentration de notre énergie et aussi l'émergence de notre puissance vers les sphères célestes. Avant-dernière proposition, le OM, vraiment dans sa dimension la plus simple. Prochaine inspiration avec moi. Oh. le Om, c'est un mantra de plénitude. Il permet la densification de l'aura, le sentiment de plénitude, mais aussi le développement de notre matrice intérieure, le sentiment d'être entouré, d'être accompagné par les énergies de l'univers tout entier. O, c'est la rondeur, vous vous souvenez, la matrice, et le M, le M, c'est, ça crée une vibration intérieure. Donc c'est la matrice qui est à l'intérieur de nous. Il faut vraiment aller chercher tout ça, en fait. Moi, je trouve ça trop beau. Dernière proposition que je vous propose, justement. Le E-M. Prochaine inspiration avec moi. Ça, c'est un mantra de rayonnement de l'amour, M. Il permet tout simplement de diffuser ou de cultiver en nous l'amour pour tout ce qui est autour de nous. Il donne un sentiment d'ouverture aux autres et de libre circulation dans les liens que nous créons avec ces personnes. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des one-shots, c'est-à-dire qu'on peut vraiment bénéficier de ces mantras s'ils sont répétés un certain temps. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'audio ici, pour pas que ça fasse trop long, et je vous reprends directement sur un nouvel audio pour qu'on aille explorer ensemble la troisième partie de ce cours qui est l'annexe de pratiques sonores que je vous ai préparée. A tout de suite.